Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Elle était la grande dame de la chanson réaliste. Enfant des faubourgs, elle a chanté toutes les misères humaines, et d'abord les siennes, dans les vapeurs d'une euphorie artificielle pour troubler les contours du réel et assurer le spectacle. Olivier Chomel et Marie Placet pistent Fréhel sur une bande sonore entre Paris, Saint-Pétersbourg et Istanbul.
Pour composer Fréhel, il faut prendre plusieurs personnes. Pour l'incarner, quoi.
Une seule personne, c'est difficile.
Un personnage en puzzle.
Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, ouais. Elle était dépeuzelée, elle, je pense. Entière et dépeuzelée, ouais. Pas mal, ça. Ouais. Ouais.
Je vais lire la didascalie, parce que Fréhel s'affale sur une chaise près de la table sur laquelle se trouve l'aquarium, comme sur un zinc de bistrot. Et elle dit au poisson, « Allez, mon pote, file-moi un coup de champe. J'ai plus un rond, mais je peux t'en chanter une. Une de celles que je chantais quand on faisait la queue pour me voir à l'ABC ou à la Gaîté Rochechouart. Quoi ? Je bois trop ? Mais je la boirai jusqu'à la lit, ta veuve ! Allez, laisse-moi t'en chanter une. » J'ai un peu la voix qui déraille, mais j'ai encore du coffre, tu peux me croire. Bah tiens, regarde, je vais te la chanter comme à la cour de Roumanie, quand j'avais chanté devant la reine. Ah oui, écoute donc celle-là. Oh nom de Dieu. Attends, ça va me revenir. C'est la Java Blue. Ah, tu te souviens de celle-là? Ah oui, mon poteau. Il y avait des poètes qui écrivaient des chansons en ce temps-là. Pas les guignols de maintenant qui font des numéros pour les Amerlocs.
Marguerite Boulsch, dite Fréhel, dite Pervenche d'abord.
Ouais, puis Pervenche, la môme Pervenche, etc.
Ouais, la belle Liane Rousse est née près de la porte de Clichy, dans le 17e à Paris, le 13 juillet 1891. C'est-à-dire que les premiers sons qu'elle a entendus, c'est le bal du,
ouais, c'est ça.
Du 13 au soir.
Et après, elle a chanté avec un aveugle dans la rue, alors qu'elle était gamine. Elle a commencé très très tôt, Fréhel a chanté. Et puis elle chantait partout. Sa mère l'avait envoyée travailler, comme beaucoup à l'époque. On envoyait les enfants, t'ira pas à l'école, puis on va t'envoyer travailler. Elle travaillait, elle distribuait le sel pour les restaurants chez Cerebos. Et elle s'est fait virer parce qu'elle faisait le show, quoi, en fait. Elle montait sur des caisses. Et, en fait, elle se faisait virer de tous les boulots qu'elle faisait parce qu'après, elle a travaillé.
Parce qu'elle chantait tout le temps. Fréhel, telle qu'elle est. Olivier Chomel, Marie Placet.
J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chipée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollo, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet.
À 5 ans, quand j'ai commencé, avec un accordéoniste aveugle, tu me croiras si tu veux, il me posait sur les tables des bistrots où on allait, et j'ai eu mon premier public. Et je gagnais des ronds. J'en voyais pas la couleur longtemps, ma mère me prenait tout à grands coups de baffe. Tu sais, mon gars, j'ai souffert comme une bête. J'ai pleuré plus qu'aucune autre femme. J'ai connu la solitude toute petite. Et je me suis lavée à l'eau des caniveaux. C'est la Java Blue. La java la plus belle, celle qui... On m'a laissée toute seule. Tu te rends compte? Toute seule. Toujours. Ah oui, j'ai été heureuse. On m'a fêtée. On m'a offert des royaumes pour me voir chanter ou simplement pour m'accompagner. Et quand je chantais, tu peux me croire, il n'y en avait pas un qui l'ouvrait. Ça sortait comme un cri qu'on pousse sous le coup de la douleur. Et je le sentais, l'écho, dans la poitrine de tous ceux qui m'écoutaient. Ah ça, je leur en donnais de la vie. Et je chantais la leur. Ah, j'en ai connu des gars. Des rois, des princes, des artistes, des intellos, des boxeurs et des gangsters. Tout ce petit monde qui fourmillait dans Montmartre. Où on venait faire la fête jusqu'aux lueurs du petit jour.
Mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît.
Les falaises du Cap Fréhel sont parmi les plus austères et imposantes de toute la Bretagne. La grande chanteuse qui a choisi ce nom pourrait s'y comparer d'une certaine façon, tout en étant un personnage fantasque, imprévisible, excessif, incontrôlable, et qui sait faire de la grossièreté une forme d'élégance. Son assurance à nul autre pareil, Fréhel la tient de la certitude de son talent sans doute, mais surtout des faubourgs qui l'ont vu grandir, et des épreuves de la vie qui lui ont si souvent réclamé un prix exorbitant. La vie est dure, faisons avec. Elle chante les voyous des fortifications, le quotidien de la prostitution, les filles de l'eau, comme on appelait les candidates au suicide par noyade, et l'accordéon musette. J'ai eu de bons instants et d'autres atroces, j'ai été pauvre, j'ai été très riche, j'ai fait des folies et même des bêtises, j'ai aimé avec passion et détesté avec force, j'ai roulé ma bosse ici et là, j'ai vu beaucoup de choses. En somme, ça ne fait pas une trop mauvaise complainte. Je ne sais pas combien il y aura encore de couplets. C'est Fréhel qui se raconte ainsi quelque temps avant sa fin. À peine sortie d'une enfance à la dure, la môme Pervenche, qui n'était pas encore Fréhel, a accouché d'un petit garçon conçu avec un jeune homme timide et prévenant qu'elle appelait Roberti. L'enfant a peu vécu. Les gens à qui le jeune couple l'avait confié l'ont laissé mourir de faim. Elle n'en parlera plus et n'en aura pas d'autre. Fréhel reprend son récit. Je n'ai quitté Roberti que pour celui qui a été le grand amour et le grand malheur de ma vie, celui pour qui j'ai failli me tuer, celui qui a été cause que je me suis 11 ans exilé, sombrant dans l'alcool et les stupéfiants, Maurice Chevalier. Ces deux êtres-là ont vécu un amour infini. L'un a tourné la page, pour raisons professionnelles. Fréhel en a souffert jusqu'au bout. C'est en tout cas la thèse de l'écrivain et dramaturge Emmanuel Robert Espalieu, auteur d'une pièce de théâtre sur les derniers moments de Fréhel, incarnée sur scène par Myriam Boyer.
Bonjour. Entrez, entrez.
Vous m'aviez parlé, Emmanuel Robert Espalieu, d'un portrait de Fréhel, née Marguerite Boulch.
Marguerite Boulch. Je vais vous montrer. Venez. Entrez. Il est là.
Ah oui.
C'est un portrait au pastel. En fait, elle est quasiment méconnaissable parce qu'elle s'était fait toute jolie, toute propre dessus. Pourtant, c'est un portrait qui date de... C'est marqué dessus. C'est un portrait qui date de 1911. Marguerite Dill Boulch, Fréhel, 1911.
Donc elle a 20 ans.
Elle a 20 ans, ouais. Et c'est,
elle sort de chez le coiffeur.
Elle s'est fait toute belle. C'est la fin. Et en plus, pourtant, c'est la fin de la période Maurice Chevalier, de laquelle elle est sortie très abîmée, physiquement, moralement, mais je sais pas. Et voilà, c'est un portrait au pastel gras.
Et c'est dans un cadre ovale qui fait à peu près 40 sur 30.
Voilà. Ouais.
Elle est belle, hein?
Ouais, elle est belle. Et puis, c'est quand on la regarde bien qu'on finit par reconnaître ses traits, sa bouche et ses pommettes. Mais c'est vrai qu'on a plus l'image de Fréhel, de ce qu'elle est devenue, Donc une grosse mémère un peu, voilà, et puis avec les cloisons nasales complètement affaissées à cause de la drogue, et puis l'alcool, etc., bouffie. On a cette image-là d'elle à la fin, mais elle était très très belle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était très courue dans avant Première Guerre mondiale, ces années de très grande gloire que sont les années 11, 12, 13. Elle était magnifique et tout le monde se l'arrachait. Même les rois, les princes, on la voulait à prix d'or, quoi. On lui offrait des ponts d'or qu'elle gaspillait dans la soirée. Hein. Elle redistribuait automatiquement. Elle était pour la redistribution automatique.
Fréhel, c'était une des plus jolies filles de Paris, avec une taille qui devait faire, je sais pas, avec son corset comme ça, des grands cheveux roux, les yeux pervenches, puisqu'on l'appelait Mademoiselle Pervenche.
Cécile Mestre-Chabrol, scénariste.
Des coiffures incroyables, des choses, ça. Et elle a séduit les mecs les plus riches de la capitale.
C'est une beauté de l'époque aussi.
Ouais, beauté de l'époque. Formes. Ouais, avec des formes, bien sûr. Mais enfin, elle était quand même, au début, la photo qui est très connue d'elle, qui est dans Pépé le Moko, d'ailleurs, avec ses espèces de chapeaux insensés, et cette taille, ses seins, comme ça, bon.
Elle est superbe.
Elle est sublime. Et du coup, voilà, c'est ses premiers concerts, la gloire, mais vraiment une gloire insensée. Enfin, c'est difficile à imaginer, mais elle a vraiment connu la grande gloire en chantant partout, en chantant le plus qu'elle peut, en chantant tout le temps, en se chantant, en couchant avec des hommes, avec des femmes, en prenant de la drogue sans arrêt, en buvant, enfin, une espèce de roulis comme ça. Et puis, c'est une punk, hein, c'est la première punk, enfin, je crois.
Audrey Coudeville, vous êtes maître de conférence à l'Université de Valenciennes, spécialiste de la chanson française. Est-ce qu'on peut faire une tentative de définition de la chanson réaliste ?
Alors oui, évidemment, on peut faire une tentative et on peut même, par exemple, se servir d'une définition que j'aime beaucoup, qui a été donnée par Romain Gary. C'est un extrait de l'angoisse du roi Salomon. Elle m'a dit qu'elle avait été chanteuse réaliste, comme ça s'appelait autrefois, quand on chantait autrement qu'aujourd'hui. La chanson réaliste est un genre qui demande beaucoup de malheur, parce que c'est un genre populaire. C'était surtout à la mode au début du siècle, quand il n'y avait pas la sécurité sociale et qu'on mourait beaucoup de misère et de la poitrine. Et l'amour avait beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui, car il n'y avait ni la voiture, ni la télé, ni les vacances, et lorsqu'on était enfant du peuple, l'amour était tout ce qu'on pouvait avoir de bien. Eh bien, quelque part, c'est tout ça, la chanson réaliste. Tout est là. Tout est dans cet extrait romanesque-là, c'est-à-dire que la chanson réaliste va développer finalement sa propre esthétique, une esthétique qui est extrêmement stylisée, qui va reposer justement sur des lieux communs et des clichés populaires, et qui vont être en particulier liés à une époque donnée, qui est celle entre 1900 et 1930. Et puis surtout, hormis ces lieux communs, il y a quand même une chose qui est importante à mon sens, c'est que c'est une chanson qui se place résolument du côté de l'interprétation féminine.
C'est Aristide Bruand qui a créé la chanson réaliste, d'accord ? Mais avant Aristide Bruand, il y a eu les chansons de la commune, les chansons sociales, et tout ça, ça vient un peu de tout ça.
Johan G. Louis, dessinateur, auteur d'une biographie dessinée de Fréhel.
Et puis Fréhel avait déjà chanté dans les années 1907-1908 des chansons, La grève des mères par exemple. Fréhel a chanté ça, quand même une chanson extrêmement engagée sur l'avortement. Enfin, vous imaginez qu'on est en 1908. Voilà, on n'est pas en 1975, on est en 1908. Enfin voilà, Fréhel, elle avait pas conscience de son engagement politique, mais malgré tout, c'était quand même, elle distribuait cette pensée libertaire extraordinaire. Et c'est ça qui me plaisait aussi chez Fréhel, c'est sa liberté.
Fréhel n'a pas une seule carrière, mais trois. Et c'est l'une des rares chanteuses réalistes à avoir justement cette caractéristique-là. Elle a d'abord une première carrière avant-guerre. On estime qu'elle a commencé à chanter vers 15 ans. Et elle va réellement happer le public, justement par sa gouaille, mais aussi par son caractère un peu fantasque.
Et n'oublions pas sa beauté.
Et sa beauté. Et effectivement, elle va séduire autant par sa voix que par sa personne.
Fréhel était dans sa jeunesse surhumainement belle, à ce point qu'elle tourna la tête d'un prince russe à faire des ravages en Russie, etc. Mais quand je l'ai connue, c'était vraiment la Margot de Villon, enfin une grosse bonne femme qui avait bu, épaisse, mais qui était une chanteuse réaliste fantastique.
Louis Chevalier sur France Culture, 14 août 1983.
Elle arrivait généralement en retard parce qu'elle buvait beaucoup, n'est-ce pas, Fréhel ? J'ai même l'impression qu'il fallait aller la chercher pour qu'elle n'oublie pas de chanter. Et avant de chanter, elle traversait la salle, je vais dire un mot horrible, enfin vous permettez, elle traversait la salle. Alors la salle archi-comble, l'Alhambra, c'était beaucoup plus grand que l'Européen, mais c'était tout de même une très belle salle, un très beau spectacle. Elle traversait la salle et trouvait le moyen d'insulter les gens. On parle de fauteuil d'orchestre, voilà le mot horrible. Elle apercevait des petites poules, je ne sais pas quoi. Elle disait « Ah, ces connasses sont déjà là !» Et elle gravissait la scène et se mettait à chanter d'une voix fantastique. D'une voix fantastique.
Elle utilisait ce qu'elle était, elle, profondément, son propre vécu. Elle le mettait dans l'interprétation des chansons. Et c'est ça qui rend pour moi, Fréhel, l'âme la plus authentique, je pense, de la chanson réaliste. Elle n'a jamais triché, elle se sert de tout ce qu'elle a vécu, et elle en a vécu des choses. Enfin, absolument tragique. C'est une fleur de pavé. C'est-à-dire qu'elle avait une mère qui l'a laissée chez sa grand-mère en Bretagne, parce que Fréhel est née à Boulevard Bessières à Paris, dans le 17e, pas très loin d'ici. Sa mère, en fait, comme le père, il était dans la marine, elle pouvait pas élever seule puisqu'elle gardait d'autres enfants, elle travaillait chez une baronne, donc elle l'a envoyée chez la grand-mère en Bretagne, qui la grand-mère était quand même passablement éméchée toute la journée. Donc déjà, la gamine à 5 ans, enfin de la naissance jusqu'à 5 ans, elle était déjà livrée à elle-même.
Elle a vraiment connu une jeunesse à la Zola, quoi.
Emmanuel Robert Espalieu.
Elle a été malade, elle a failli être violée, elle a été battue, enfin bon... Je pense qu'elle a pris la totale, le grand menu en termes de misère. Mais c'est quelqu'un qui avait aussi ce besoin d'amour qu'elle n'a pas eu de ses parents.
Comme je n'avais plus de parents, d'école je rentrais tristement, toute seule. Pour m'aider à faire mes devoirs, personne, toujours matin et soir, toute seule. J'ai pris un amant qui bientôt me laissa froidement toute seule. Mais au bonheur j'eus un garçon, je n'étais plus comme c'était bon, toute seule. Une fièvre emporta mon petit haut, pour pleurer j'étais à nouveau. Depuis, je traîne mon ennui, le matin, le jour et la nuit, toute seule.
Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le répertoire de Fréhel, c'est qu'il y a des points d'intersection extrêmement forts entre son répertoire et ce qu'elle va vivre. Et c'est ce qui fait aussi sa particularité.
Parce qu'elle a eu un petit garçon à l'âge de 15 ans.
À l'âge de 15 ans, voilà, qui meurt un an après parce que, apparemment, la nourrice ne l'aurait pas suffisamment nourri. Mais paradoxalement, cette anecdote-là, elle en parle très peu. Et surtout.
Mais elle en parle, Audrey Coudeville, sans pathos, justement.
Exactement.
Très tard.
Oui, très tardivement.
Dans sa vie. Il y a comme un fatalisme chez Fréhel qui peut-être l'a sauvée, je ne sais pas.
Il y a une forme aussi de pudeur malgré tout chez Fréhel, même si on a l'impression qu'elle se dévoile toujours dans ses chansons.
C'est pas ce qu'on voit en premier.
C'est pas ce qu'on voit en premier, et pourtant, il y a une pudeur. Même lorsqu'elle parle de Maurice Chevalier, il y a une forme de pudeur.
Joanne G. Louis, il existe un différent entre Mistinguett et Fréhel.
Ah oui, un très gros. C'était Maurice Chevalier d'ailleurs, qui était le grand amour de Fréhel. Et Mistinguett, on dit qu'elle a volé... Maurice Chevalier à Fréhel. Et ça, elle s'en est jamais vraiment remise. D'ailleurs, Maurice Chevalier, il le dit lui-même dans des interviews. C'est vrai qu'elle jouait un peu avec la vie, elle brûlait la vie par tous les bouts. Et puis, Maurice Chevalier l'a suivie dans tous ses débordements, que ce soit la drogue, les soirées.
Jusqu'à un certain point.
Voilà. Et au bout d'un moment, il a dit, moi, il faut que je reprenne ma carrière en main. Et il s'est retrouvé dans un spectacle avec Mistinguett. Et là, Mistinguett l'a pris sous son aile pour... Et puis, un peu plus que sous son aile, quoi. Voilà.
Mais vous avez dessiné la scène, Joanne G. Louis.
Oui, avec le couteau, quand elle le cherche partout.
Avec le tapis.
Ah oui, le tapis, la fameuse... Oui, oui, ils s'enroulent dans le tapis tous les deux. C'était Maurice Chevalier et Mistinguett.
Et Fréhel a vu ça, semble-t-il, et elle en était scandalisée. Enfin, ça la mise en colère, en tout cas.
Ah oui, bah, elle voulait tuer Maurice Chevalier. Elle a sorti un couteau. Et d'ailleurs, elle reprend. Elle s'est servie. Voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les chansons, elle se sert de son passé. Et dans La Coco, c'est ça que ça raconte. Cette chanson, La Coco, où elle dit « J'ai fait une bêtise. J'ai tué mon gigolo. »
Pendant des années, elle a traîné dans Paris, le soir parfois. On dit même qu'un jour, elle avait un couteau dans son sac en espérant poignarder la... sa gonzesse, et voilà, se venger, quoi. Et en même temps, ce qui est assez perturbant pour elle, c'est qu'elle avait à la fois ce désir de vengeance, et puis, quand on parlait mal de lui, elle allait attaquer la personne qui parlait mal de lui. Donc, elle était vraiment à la fois dans l'amour qui n'en finit pas, et dans la douleur qui n'en finit pas non plus, donc entre
et,
deux eaux.
Et tout près du fait divers.
Et ouais, tout près du fait divers, oui. Mais des faits divers, de toute façon, elle en a tellement connu petite, avec de la violence, avec une tentative de viol, avec des accidents, une mère qui se prostituait. Elle vivait dans la rue, elle côtoyait les gangsters. Enfin bon, elle vivait dans le fait divers, en permanence. Mmh. C'est comme ça qu'elle voyait les choses. C'est-à-dire le fait tout de suite, elle aimait le danger, en fait, d'une certaine manière. Ça l'a... Je pense que ça l'a motivé beaucoup à vivre. C'était aussi ce danger, c'est d'être toujours au bord du gouffre.
La relation entre Fréhel et Maurice Chevalier a réellement impacté l'œuvre de Fréhel au-delà de sa vie personnelle. Hein, quand elle chante La Coco, même si voilà, ça n'a pas été écrit pour Fréhel, La Coco, hein, mais elle choisit quand même cette chanson-là parce qu'il y a des redondances avec ce qu'elle a vécu.
En tout cas... La Coco, c'est une chanson qui va très bien, Fréhel.
Ah ben, ça lui va comme un gant, hein, puisque justement, la chanson explique que c'est parce qu'elle a été rejetée par son amant qu'elle est tombée dans la cocaïne, dans l'opium, dans l'éther, etc. Et qu'elle essaye de supporter sa vie comme ça, quoi.
L'esprit s'envole et mon chagrin s'enfuit tout loin, je deviens folle. Comme tous les soirs précédents, je sablais encore le champagne lorsque j'aperçus mon ancien amant avec sa nouvelle compagne. L'orchestre jouait un brillant tango, dans ses bras il tenait sa belle, et moi sur la table j'ai pris un couteau et ma vengeance fut cruelle. Grise, j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon gigolo devant les copines comme une coquine. Dans le cœur j'y ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler mon cerveau. L'esprit s'envole.
Elle chante carrément La Coco, quoi, elle s'en fout. Elle chante ça, elle chante... Donc je pense qu'elle n'a pas... Le moteur, c'est qu'elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle avait cette gouaille incroyable. Elle haranguait les gens, elle leur disait ce qu'elle pensait. Elle était, ouais, quand sauvage, incontrôlable, oui, certainement. Je pense qu'elle foutait un peu la trouille, hein, franchement.
Fréhel a été pour Chevalier aussi.
Un mauvais ange.
Alors, moi, je dirais que ça a été un fardeau émotionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il a vraiment aimé, mais dont il a dû se séparer par nécessité, parce qu'elle le flinguait. C'est-à-dire qu'elle lui faisait prendre de la cocaïne. Il était à l'éther, elle faisait prendre de la cocaïne. Comme elle disait, c'est plus chic et ça sent moins. Il picolait comme un trou à cause d'elle, parce qu'après avoir chanté, c'était les soirées. Elle fréquentait les mafieux parisiens, Joe la Terreur, les Argentins, beaucoup, qui étaient ceux qui fournissaient en cocaïne le gratin parisien. Donc c'était les noces tous les soirs. Et lui, le problème, c'est qu'elle, d'un côté, ça la motivait et ça ravivait son énergie et ça la rendait plus forte. Or, lui, ça le détruisait. Et parfois, quand il chantait, il oubliait ses textes. Et à un moment donné, Chevalier, il a dû se séparer d'elle, aidé par Mistinguette, qui a mis le grappin dessus.
Et après cet amour déchu, Maurice Chevalier qui la quitte pour Mistinguette, elle est chez Fischer, qui était un endroit à la mode, vers Opéra, dans le 9e. C'était un endroit où les gens allaient s'encanailler, les bourgeois, comme, enfin voilà, c'était vraiment un endroit très prisé. Et là, elle rencontre la duchesse Anastasia, qui est la cousine du tsar Nicolas II. Et du coup, elle lui dit, mais oh là là, tu es malheureuse, hein, viens avec moi en Russie, là-bas, tu vas voir, tu vas t'amuser. Et donc, elle est partie dans les pays de l'Est 10 ans. Et là, il s'en est passé des choses. En France, on ne savait plus du tout où elle est passée. C'est-à-dire de 1913 à 1923, il y a eu un trou, en fait. On ne savait pas où était Fréhel.
Audrey Coudeville, elle a vécu des choses à l'Est.
Oui.
Vous citez Fréhel elle-même, elle dit... Parlant de Saint-Pétersbourg, la Riboudin que j'avais connue à Montmartre faisait figure de bal donnée au chef-lieu de canton en l'honneur de la Rosière. En comparaison avec ce qui se passait à Saint-Pétersbourg, c'était une débauche totalement débridée. On faisait n'importe quoi.
Oui, absolument. Et je cite un autre passage où on vous explique ce que pouvait être justement l'aquarium à Saint-Pétersbourg, qui était d'abord gigantesque. Et complètement décadent, qui finissait bien souvent d'ailleurs par quelques suicides de renom. Donc voilà, c'était vraiment le lieu de la fameuse roulette russe.
Elle perd la boule et grâce à son amie la grande duchesse Anastasia, elle obtient un contrat dans le plus grand cabaret du monde qui s'appelait l'Aquarium, qui était à Saint-Pétersbourg.
Cécile Mestre Chabrol.
Donc là, on est à la veille de la Première Guerre mondiale et donc elle part, elle s'arrête en Roumanie, elle rencontre Eugène Diamandescu, rien que ça, c'est quand même dément, ce nom, quoi, un soldat qui tombe amoureux d'elle. Mais le général Bobok veut coucher avec elle, donc il va entraver cette aventure. Elle part à Saint-Pétersbourg, dans ce cabaret, l'aquarium, c'était dément, rien que ça, c'est... En fait, c'est un cabaret qui était ouvert du 1er juin à fin août, je crois, qui n'était jamais fermé.
Vous voulez dire qu'il était ouvert 24 heures sur
24. Il était ouvert 24 heures sur 24, ouais, c'est incroyable.
On précise qu'en Russie, donc elle était la véritable mascotte de toutes les têtes couronnées et que un général, donc du nom de Poutilov, qui était ministre de la guerre, va lui organiser des adieux absolument fastueux et elle va manquer, Fréhel, de froisser l'un des grands-ducs. Et voici ce qu'elle rapporte. La salle était garnie de haut en bas d'uniformes brillants et de toilettes somptueuses. Tous les grands-ducs étaient là. Boris, Dimitri, Cyril, Serge, Michel. Quand je vins saluer pour la dernière fois, on avait déposé sur la scène autour de moi 50 immenses corbeilles de fleurs. Un des grands-ducs, Michel, je crois, me lança même un petit bouquet de violettes. À côté de ces corbeilles, plus hautes que moi, ce petit bouquet paraissait si dérisoire que je pensais que c'était une blague qu'il voulait me faire. Et je le lui rejetais en riant. J'étais à peine de retour, tout essoufflé dans ma loge, qu'un aide de camp du grand-duc venait me rapporter les violettes en me disant que son Altesse me priait de bien vouloir examiner de plus près son modeste hommage. Dans l'enveloppe qui contenait la carte de visite, je trouvais en rougissant jusqu'aux cheveux un brillant de 15 carats.
Bon, et puis elle est repartie, parce qu'il y a eu la guerre, donc ils ont viré tout le monde. Elle est repartie en Roumanie, elle a retrouvé Eugène, elle a accepté ses avances. Et le général Bobok, pour se venger, a envoyé Eugène au front, en Moldavie, et elle l'a suivi, quoi. Elle a pris un train et elle a rejoint Eugène, et elle est devenue fermière en Moldavie. Enfin, c'est quand même insensé, quoi. C'est avec ses poules, ses canards, voilà. Puis du coup, Bobok, quand il a su qu'ils se sont mariés, il l'a su, il a envoyé l'autre en première ligne. Il est mort, le pauvre Eugène est mort. Et là, ça l'a tué une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois.
Elle recevait des lettres, plein de lettres, comme ça. Alors qu'elle pensait qu'il était vivant, mais sauf qu'en fait, il les avait toutes écrites à l'avance. Et un jour, à la fin de la guerre, quand sont arrivés les Russes chez elle, là-bas, ils ont dit, mais faut, en fait, fallait qu'elle parte. Et là, c'était vraiment le début de la déchéance. Elle a d'abord commencé à vouloir d'abord rentrer en France, et puis elle s'est retrouvée en Turquie. Elle était sur le bateau, puis là, on lui dit, ah, mais c'est la plaque tournante de la drogue. Donc elle s'est dit, je descends. Elle est descendue et elle est restée là-bas 5 ans. Et là, elle ne chantait plus du tout.
Quand on l'a retrouvée en 23 à Constantinople, dans un hôtel borgne où elle faisait la pute pour survivre.
Emmanuel Robert Espalieu.
Ça faisait 5 ans qu'elle traînait à Constantinople, où elle était arrivée comme une reine. Et puis après, la misère, la drogue a fait qu'elle. Et puis au bout d'un moment, les gens se sont lassés d'elle. Et c'est en fait. On la croyait morte en France. Et c'est un Français de passage à Constantinople qui voit cette dame qui me rappelle, on dirait Fréhel. Et en fait, c'était bien elle. Et dans sa chambre, il y avait un autel, mais A-U-T-E-L, sur lequel il y avait des bougies cramées en permanence, avec une photo de chevalier et une photo de Eugène Diamantescu, ça ne s'invente pas, qui était donc le fameux officier roumain dont elle est tombée amoureuse pendant la Première Guerre mondiale.
Et là, elle a été rapatriée au bout d'un moment parce qu'il y avait un journal à Paris qui annonçait sa mort. Mais là, ils se sont inquiétés et à la gare, quand même, l'attendait Montéus, qui était fidèle à Fréhel.
Et son premier mari.
Et son premier mari. Voilà.
Et elle repart de zéro tout le temps, quoi. Elle a une ressource démente.
C'est en ça que vous dites que c'est un phénix.
Ouais, c'est un phénix, ouais. Parce que voilà, elle revient de Constantinople, de ce cabaret, 5 ans, elle est complètement oubliée. On est en 1924, le monde a complètement changé. Elle est partie 10 ans, tout a changé. Le monde a changé, évidemment. Le musical a changé, tout a changé. Et puis, peu de temps après, elle fait l'Olympia et l'Olympia est à genoux devant elle. Qui l'eût cru ?
On l'avait oublié pendant ces 10
ouais,
ans
ouais, ouais, mais
en Europe de l'Est.
C'est le patron qui l'appelait, comment s'appelait le patron de l'Olympia à ce moment-là.
Franck, de son nom.
Il l'appelle l'inoubliable inoublié. Ouais.
Ouais.
C'est assez joli.
Mais si elle ressurgit en 1924-25, Cécile Mestre-Chabrol, c'est parce que justement, il y a des gens à Paris qui ne l'ont pas oublié, à commencer par son public, et puis des gens qui se donnent les moyens de la faire remonter sur scène.
Mmh. Ouais, 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 bien sûr.
Parce que c'était pas gagné.
Non, non, c'était pas gagné. D'ailleurs, je crois qu'elle ne voulait pas y aller ce soir-là. Je crois que c'est Roberti qui est allé la chercher. Je crois que c'est son premier mari qui est allé la... Bon, elle avait arrêté la cocaïne, parce qu'elle prenait quand même 5 grammes de coke, je crois, par jour. Elle avait arrêté. Du coup, elle avait remplacé ça par le champagne et l'alcool.
J'ai lu un chiffre supérieur.
Ah ouais?
Mais je pense qu'on est au-delà de la dose létale, oui.
Ouais, c'est ça. Donc, elle avait remplacé ça par l'alcool, donc elle buvait comme un trou, ce qui explique aussi qu'elle était devenue cette femme imposante. Et je crois me rappeler qu'elle raconte que... Elle s'est pas réveillée ou je sais pas quoi et que c'est Roberti qui est parti et qui est allé la chercher et qui l'a tiré de son lit pour l'amener dans sa loge le soir de l'Olympia, quoi. C'est quand même difficile à imaginer. À la fois la trouille et bien sûr, mais aussi je m'en fous, quoi. Je m'en fous après moi le déluge. Bon, je vais pas à l'Olympia et alors. Enfin, bon, et puis elle a fait l'Olympia et la salle, et je l'imagine toujours avec cette poursuite comme ça, sur la scène, toute seule, avec cette poursuite. C'est reparti pour, je sais pas, pour 5 ans. Puis après, il y a le cinéma, Gabin.
Son commentaire sur cette soirée, c'est, je crois, à peu près, et j'ai commencé à chanter, et j'ai fait un triomphe, comme avant.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
C'est comme moi, Pépé. Quand j'ai trop le cafard, change d'époque.
Change d'époque ?
Oui. Je pense à ma jeunesse.
Pépé le Moko.
Je regarde ma vieille photo et je me dis que je suis devant une glace.
Film de Julien Duvivier, 1937.
Je remets un de mes anciens disques du temps où j'avais tant de succès à la Scala Boulevard de Strasbourg. Je paraissais en scène dans un décor champêtre, avec un projecteur rouge braqué sur mon visage pâle. Et je chantais.
Pour revenir sur la formule de Paul Franck, l'inoubliable inoublié, pour le coup, lorsque Fréhel revient dans les années 20, elle est effectivement oubliée.
Et elle ses ne errances, comprend plus la ville qu'il a vu naître et où elle a eu tant de succès.
Alors, elle ne la comprend plus, j'en suis pas certaine, pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas la seule non plus à être dans cette forme de nostalgie. C'est-à-dire que son public n'a pas disparu. Et finalement, Fréhel va représenter tout un pan de la population, entre guillemets, qui n'est plus à la mode, mais qui est existant, qui est le peuple de la marge, le Paris populaire. Quand elle revient, effectivement, elle n'a plus son public, mais elle part à sa reconquête.
Où est-il, mon moulin, la place blanche, mon tabac? Mon bistrot du coin, tous les jours pour nous, c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusets, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand je bouffais même sans avoir un rond? sont-ils.
Au passage, ça lui permet, Audrey Coudeville, une fois encore, d'exprimer sa nostalgie qui a un côté un peu permanent.
Ah, mais c'est
où sont tous mes amants? Où est-il mon moulin de la Place Blanche? Que sont devenues les fortifications? Et j'en passe.
Bien sûr, Fréhel, c'est à la fois une figure d'immuabilité, quelque chose qui va rester dans la mémoire, et en même temps, le jaillissement aussi de ces choses passées. Elle va réactiver, pour son auditoire, un Paris presque mythologique, un Paris qui n'existe plus, celui de la Belle Époque. Et elle va construire tout son répertoire autour de cette résurgence.
Fréhel n'a pas écrit une seule chanson.
Non.
Donc ce sont des auteurs qui s'en sont occupés, assez nombreux, exclusivement des hommes, je crois.
Exclusivement des hommes, oui.
Pourtant, on peut dire que Fréhel a fait une œuvre.
Ah bah oui, tout son, enfin, je veux dire, l'intégralité de son parcours constitue une œuvre. Elle est l'une des premières à avoir, à ce point, incarné la voix prostituée, puis ensuite à avoir incarné le musette. Et d'ailleurs, le cinéma s'est pas trompé, puisque ça va être l'une des seules chanteuses réalistes à apparaître dans autant de films. De mémoire, elle apparaît dans 17 films, Fréhel. Et pas des moindres, quand même. Hein. Dans Pépé le Moko, dans Le roman d'un tricheur, dans Cœur de Lila, qui est un de ses premiers films, L'enfer des anges, il y a vraiment énormément d'apparitions de Fréhel.
À 21 ans, je suis appelé sous les drapeaux. Et je fais 3 ans de service à Angoulême. Oh, ce n'est pas vilain Angoulême, mais Angoulême, pendant 3 ans, c'est trop. Il y avait bien une sorte de café chantant, maison mi-close que nous envahissions le soir et dans laquelle nous nous efforcions de nous mal conduire.
Le roman d'un tricheur, film de Sacha Guitry, 1936.
Les cheveux très longs qui descendaient sur ses oreilles, un doux visage, des yeux gais, avec je ne sais quoi qui distinguait de ses pareils. Je veux parler des autres Merlans, et Dieu sait s'il était pour grand. Voilà pourquoi chaque dimanche je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. À la fois chaque dimanche je remettais ma robe blanche pour me.
Tout le monde dit que les enregistrements c'est rien à côté de comment elle chantait quand elle était sur une scène de cabaret ou de théâtre ou de musical.
Il y a derrière un personnage une solidité exceptionnelle aussi.
Je crois qu'il y a une vitalité exceptionnelle, il y a une énergie exceptionnelle, il y a un amour de la vie, il y a un amour des gens. Je pense que quand on chante pour soi sans doute, comme quand on écrit, mais on chante quand même pour les autres. Enfin, c'est pour ça qu'elle aimait pas, je pense, les enregistrements, c'est pour ça qu'elle aimait pas le micro, elle aimait pas tout ce qui était, à mon sens, j'en sais rien, hein, je me suis aussi inventé ma Fréhel, parce que, bon, mais je pense qu'elle aimait pas tout ce qui
pouvait être un obstacle entre elle et le public.
Ouais, je crois qu'elle aimait vraiment le contact, je pense que, enfin, on sait, c'était une grande gueule, donc, elle savait s'exprimer, quoi.
Fréhel impose autant par sa stature que par sa force de conviction et sa voix. Elle tient en respect son public. Elle le fait très naturellement, mais c'est aussi sa nature et, j'allais dire, sa condition sociale qui ont fait qu'elle le fait naturellement. Parce que c'est l'attitude des femmes du peuple. Vous voyez, un petit peu le menton relevé, un peu à droite sur ses ergots.
Fermez vos gueules,
j'ouvre la mienne. Finalement, Fréhel, c'est la fille mal couvée d'Aristide Bruand et d'Yvette Guilbert, parce que elle utilise le même procédé qui est l'invective.
Il y a un truc qui est très flagrant, c'est qu'à partir des années 30, il y a eu le phénomène des azous, le jazz qui arrive, des nouvelles modes musicales auxquelles se plient tous les gens, toutes les générations, pas elle. Elle se tient son truc, et même plus ça va, plus elle affirme physiquement sa posture sur scène, Sa manière de chanter, d'haranguer, elle est de plus en plus vraiment... elle en voit, quoi. Et les gens viennent la voir pour ça, d'ailleurs. Et je me souviens, pour avoir eu la chance de le fréquenter aussi, j'avais comme ami Philippe Clay. Et Philippe avait chanté un jour avec elle. Alors, je ne sais plus où c'était. Il me dit, j'étais sur scène. Il y avait un grand escalier métallique qui arrivait sur scène. Et je devais commencer la chanson. Et elle arrivait après. Et je commence à chanter et elle n'arrive pas. Et donc, et à un moment donné, il entend simplement « Ah, je me suis pissé dessus !» Et là, elle descend, et il voit arriver une espèce de clodo, avec une espèce de robe de chambre à fleurs, pas du tout habillée, une espèce de menhir sur pattes, puant en plus, pas d'hygiène ni rien, qui débarque sur scène, donc il y a un grand silence, et lui, il ne sait pas comment reprendre. Et il me dit, ça a été un moment magnifique, parce que de l'état d'épave, elle s'est mise à chanter, et tout d'un coup, elle est devenue sublime.
Voilà pourquoi chaque dimanche, je ne remets plus ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais.
Dans les années 30, elle continuera aussi à fasciner. Elle va fasciner par exemple Charles Trenet, qui était là pour le coup en pleine ascension. Hein, quand il rencontre Fréhel, c'est avec Johnny S, donc il fait encore partie du duo Charles et Johnny.
Il a 20 ou 25 ans.
Oui, à peine. Et il va d'ailleurs lui composer une chanson expressément pour elle.
Plusieurs, je crois.
Alors deux, précisément. La valse à tout le monde, mais elle n'aura pas le succès que Charles Trenet dit qu'elle a eu. Au contraire, mais en tout cas...
Et une chanson surréaliste, drôlatique.
Et magnifique, Le fils de la femme poisson. Et qui lui correspond tout à fait, parce qu'à cette même période, Fréhel, ce qu'elle aime, c'est chanter sur une planche et deux tréteaux à la foire du trône. Et Le fils de la femme poisson, c'est tout à fait ça.
Donc c'est l'histoire d'un cirque familial.
Oui.
Et elle adore ça, Fréhel.
Mais oui.
Le cirque.
Le cirque, elle est fascinée par le cirque. Et d'ailleurs, au tout début de sa carrière, elle a chanté une chanson qui s'appelait Le Clown. Alors, c'est une chanson tragique pour le coup. Hein. Mais elle le dit qu'elle est fascinée par le cirque. Et ça
alors,
sera.
Le fils de la femme poisson, Audrey Coudeville.
Oui.
Enfin, je voudrais l'entendre.
Mon Dieu. Mais alors, attendez, faut peut-être que je le retrouve d'abord. Le fils de la femme poisson.
On peut se contenter du refrain.
C'est tellement joliment dit et joliment écrit que. Ah voilà, je l'ai. Il pleut sur la foire, tout est aux abois, tir et balançoire, manège et chevaux de bois, et j'entends l'histoire d'un type un peu fou qui, dans la nuit noire, me dit l'air très doux.
Je suis le fils de la femme poisson.
Alors attendez, parce que je sais plus la
ma
suite.
Ma tante était femme à barbe.
Le fils.
Mon grand-père était homme tronc. Mon frère est dompteur de lions.
Oh. Ah, ah.
Et mon cousin tient une maison de plaisir près de Tarbes. Il en a deux près de Toulon, où ce qu'on joue de l'accordéon. Voyez, ils ont tous une belle situation, mais moi je ne suis que le fils de la femme poisson.
C'est étonnant cette fidélité que certains personnages lui ont gardée, Johann Gélouis, ainsi que son public, malgré ces 10 ans d'éclipse, par exemple, de 1914 à 1923.
Ouais, ben, ça prouve bien que les gens, ils l'aimaient, en fait, qu'il y avait un vrai amour. Parce que, voilà, ça dit bien qu'elle était populaire et qu'il y avait une espèce d'authenticité. Et ça triche pas, et ça, il me plaît chez Fréhel. C'est qu'elle trichait pas, en fait, elle était pas dans le calcul ou... Dans la posture, il y avait cette espèce de, ouais, de vie comme ça, au jour le jour. Elle pouvait chanter dans une grande salle et puis après aller chanter dans un bistrot. C'était pas une diva en fait. C'était vraiment l'antithèse de Miss Tinguette. Qui Miss Tinguette représente plus le début de la société de consommation pour moi.
Elle avait un goût pour les bistrots un peu crado.
Elle avait un goût pour tout, elle avait un goût pour les diamants aussi, il faut savoir.
Oui.
Elle avait des gros diamants qu'elle a gardés longtemps jusqu'à son cambriolage en 1930, parce qu'après elle habitait Cité Chaptal, dans le 9e, pas très loin. Et elle a tout perdu. Bien, elle économisait rien, et puis elle avait des gigolos, parce qu'il faut vous dire qu'elle aimait les hommes. Mais les hommes, ils la volaient aussi.
Le pathos chez Frêle n'est pas larmoyant. La nuance, elle est là. Il y a une expression du pathétique, mais pour autant, il n'y a pas d'atermoiement, il n'y a pas de... c'est le constat d'une fatalité. C'est comme ça, point. Parce que la vie est ainsi faite.
Frêle a toujours fonctionné comme ça. Toujours. Qu'elle soit couverte de bijoux ou dans la misère la plus noire.
Ben d'ailleurs, tous ces fameux diamants, finalement...
Où sont-ils?
Où sont-ils? Voilà, c'est pas où sont tous mes amants, c'est où sont tous mes diamants, quoi. C'est, voilà, il lui reste plus rien. Donc ça n'a pas de... Pour elle, ça n'a pas d'importance.
Dites-moi, c'est pas la première fois que vous venez devant un micro. Vous avez une vieille expérience de la radio. Est-ce que vous avez quelques souvenirs à nous raconter?
Oui, j'en ai un, il est pas banal.
Radio Lausanne, 4 novembre 1950.
La première fois que j'ai chanté, c'était au PTT. Eh bien, écoutez, j'ai eu un de ces tracs, mais alors quelque chose. Je ne pouvais plus ni avancer ni reculer.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Ben, il s'était passé que derrière les vitres, les techniciens, n'est-ce pas, ils riaient quelquefois pendant que je chantais du triste. Quelquefois, ils étaient tristes quand je chantais du gay. Alors j'ai toujours eu peur qu'on se moque de moi.
Ah, en fait, c'était pas ça. Probablement, les techniciens n'écoutaient pas ce que vous disiez à ce moment-là.
Ben non, mais moi, je l'ignorais.
Ah, bon.
Emmanuel Robert Espalieux, vous êtes dramaturge, scénariste, écrivain. Et il y a une dizaine d'années, vous avez écrit une pièce de théâtre dont les trois personnages sont Frêle, Maurice Chevalier et une chanteuse débutante, admiratrice des deux autres, qui est prénommée Paulette. Et ça s'intitule Riviera. Pour quelle raison?
Parce que Maurice Chevalier avait envoyé une carte postale de la Riviera où il avait une maison vers Cannes, à Fréhel un jour, et c'est le seul courrier qu'elle a jamais reçu de lui, malgré ses promesses. Et après qu'il l'ait quitté pour Mistinguette, elle a reçu cette carte postale de la Riviera qu'elle a toujours gardée avec elle et qu'elle avait accrochée et punaisée au mur. Et d'ailleurs, dans la pièce, c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient punaisé une petite carte postale au mur et qu'elle regardait tous les jours et qu'elle gardait comme une fenêtre, comme elle dit, elle appelait ça une fenêtre ouverte sur le printemps. Et c'était, elle personnalisait un petit peu l'espoir qu'un jour, il débarque et il l'emmène sur la Riviera comme il lui avait promis un jour, ce qu'il n'a jamais fait. Parce qu'en fait, je me suis inspiré de ça parce que j'avais trouvé une photo dans une interview qui avait été faite d'elle à cette époque-là. Un journaliste qui s'était intéressé à elle et qui avait fait une interview pour voir, mais qui est devenue Fréhelle. On l'a présentée comme une ménagère des années 50. Vous voyez, c'était, elle accueillait, elle avait dû ranger son appartement. Il y avait une photo où elle pose comme ça avec une blouse imprimée à fleurs, les blouses d'intérieur qu'avaient les femmes à l'époque pour faire le ménage, etc. Des grosses charentaises. Et elle pose à côté d'une table sur laquelle il y a un bocal avec un poisson rouge. D'où l'idée dans ma pièce du bocal avec le poisson rouge. C'était son compagnon, Polo. Polo le poiscaille. Voilà. Et je me suis inspiré de cette image-là pour ce personnage. Donc, on retrouve dans son meublé, rue Pigalle, donc. Et la nuit, dans ses nuits alcoolisées, il y a qui réplique dans l'appartement, enfin, dans l'appartement, dans le studio. C'est Maurice Chevalier.
Myriam Boyer. Vous êtes comédienne de théâtre et de cinéma. Quelle est la situation qui est exposée dans la pièce d'Emmanuel Robert Espalieux, Riviera?
Alors c'est très
vous incarnez Frêle.
Oui. Emmanuel a eu l'idée de faire revenir Maurice Chevalier au moment où elle va mourir, parce qu'il lui avait promis de l'emmener sur la Riviera. Et donc toute la pièce est autour de cet amour. Et donc c'est son fantôme qui est là. Et elle vit son amour. Elle vit son amour avec Maurice Chevalier.
Dans son imagination.
Dans son imagination.
Presque dans son délirium très mince.
Oui.
Peut-être.
Oui, aussi. Oui, sûrement. Sûrement, aussi. Et puis de la fin de sa vie. Et on dit hein, qu'il paraît que vous voyez un peu, un petit peu votre vie.
Quand la fin approche.
Il paraît. Et là, je trouve qu'il a fait quelque chose de très beau. Très, très, très beau. Il y a un petit côté fleur bleue, moi, qui me plaît bien, parce que je crois que c'est ça aussi. Je crois que les gens qui vont tellement loin comme ça, il y a quelque chose de fragile, Il y a de la poésie, il y a plein de... C'est ce moment. Et cette pièce, c'est vraiment que ce moment. Puis on la voit rentrer complètement ivre. Elle arrive sur scène et elle chante « Où sont tous mes amants ?» Et c'est très beau, quoi. Cette chanson, elle raconte tellement de choses. La vie d'une femme et la fin. Quand on voit la vie de Fréhel, quand on entend ses chansons, quand on est vraiment imprégné par elle, il y a quelque chose où elle est obligée de nous émouvoir.
À votre avis, Myriam Boyer, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de Fréhel au cours de ces deux ou trois dernières journées, celles qui sont racontées dans la pièce Riviera et celles de début février 1951? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme qui a connu une gloire immense et qui s'éteint doucement et dans la misère, à quatre pas d'ici, 45 rue Pigalle.
Je vois que la solitude. Je vois que la solitude. Et c'est pas à ce moment-là, d'ailleurs. Je pense que c'est la solitude tout le temps. Tout le temps. C'est pas parce que vous avez une vie très riche et c'est la solitude.
Et en souffre-t-elle? Et éventuellement, de quelle façon? J'ai l'impression qu'elle est extrêmement endurante.
Oui, mais c'est pas parce qu'elle est endurante qu'elle souffre pas. Oui. Oui, elle souffre. De toute façon, c'est une femme qui connaît la souffrance tout le temps. Mais il y a des gens qui souffrent et qui en font rien. Elle en fait quelque chose. C'est aussi cette grande chanteuse parce qu'elle exprime justement tout ça. Et elle nous le donne.
Elle sait comment le faire.
Eh oui. Et elle reste avec nous.
Mais elle est touchante, en fait. Moi, je la trouve toujours aussi belle. Enfin, même malgré ce physique. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup dessinée dans la bande dessinée. Et c'est elle qui le raconte quand elle a ce physique-là. Parce qu'elle a un côté un peu... Même si elle a que parfois que 45 ans ou 50 ans, en fait. Elle n'est pas si vieille que ça. Mais moi, j'aime bien, elle a un côté hyper, très touchant, en fait. Et elle était très maternelle, paraît-il, avec les jeunes chanteuses. Et elle n'était pas dans la concurrence non plus des autres chanteuses. Une fois, il y a une chanteuse qui est venue la voir à l'ABC, et puis elle lui dit « Madame, je voudrais chanter comme vous ». Elle lui dit « Mais fais, petit, fais ». Elle n'avait pas cette concurrence. Elle s'en fiche.
Elle avait une beauté très particulière. Très particulière, mais elle était belle. Et effectivement, quand vous voyez ce qu'elle devient sur la fin de sa vie, on a du mal à faire le rapprochement. Puis encore une fois, il y avait son nez qui s'était affaissé à cause de la drogue, puisque sa cloison nasale avait disparu. Elle avait un jeu horrible, le jeu du mouchoir, je pense, qui faisait la honte de Maurice Chevalier en soirée. C'est pour ça qu'il partait, il avait honte.
Et ça consistait en quoi?
Ça consistait, comme elle n'avait pas de cloison nasale entre les deux narines, elle se passait un mouchoir dans une narine et puis elle le faisait sortir par l'autre narine et puis elle jouait comme ça à le faire passer d'une narine à l'autre et ça faisait rire toute la table, sauf Maurice Chevalier.
À commencer par elle.
Ah oui, bien sûr. Avec un rire, parce que le rire, on le connaît, il y a des enregistrements où on sent que quand elle va rire, ou il y a des films aussi où on la voit rire. Elle avait un rire claquant, tonitruant, extrêmement gouailleur aussi, quoi. C'était un éclat de rire d'une générosité et d'une spontanéité totale. Sortie de la guerre, elle est à nouveau dans le fond. On la ramène. Alors ça, c'est de plus en plus difficile. On l'aide à revenir en haut de l'affiche après la guerre, mais ça commence à être compliqué parce qu'il y a la concurrence de tous les styles musicaux qui sont arrivés, parce qu'elle commence à être vieille, parce que aussi elle commence à avoir une mauvaise réputation, avec l'anecdote que je vous ai donnée avec Philippe Clay, où c'est une épave, quoi. Et puis après, elle recommence à redescendre, et puis là, c'est la chute. Elle finit dans un institut sanitaire au Vésinet, avant de finalement intégrer ce fameux petit meublé rue Pigalle, grâce à des amis, et puis où elle va crever dans la... En fait, c'est ce qui est terrible, c'est que quand elle va crever là-bas, soi-disant d'un ulcère à l'estomac, c'est par la presse que la plupart de la profession artistique va l'apprendre. Et il va y avoir un engouement pour son enterrement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de respect qui s'est exprimé à la hauteur de ce qu'elle était, mais après sa mort. Et c'est à ce moment-là que les gens ont exprimé ce regret finalement et aussi cette culpabilité de l'avoir laissé mourir pour la plupart d'entre eux dans la misère.
Évidemment que ça a été triste parce qu'elle a fini dans un hôpital d'indigents, Vésinet, après des amis comme Suzy Delair, et d'autres, Fernandel, des gens comme ça, on faisait des galas de soutien à l'Européen, où elle venait chanter ou pas, parce que des fois elle n'était pas là, parce qu'elle était dans un bistrot, elle ne venait pas, parce qu'elle était passablement éméchée, donc elle ne venait pas. Et après, ça a permis de payer une chambre dans un hôtel de passe, qui est absolument sordide quand même. Mais, et elle se mélangeait avec toute la population, parce que c'était le milieu, ce qu'on appelle un peu le milieu. Pigalle, ça n'a rien à voir avec le Pigalle d'aujourd'hui, hein. C'est complètement un autre tableau. Enfin, c'est-à-dire que c'était les truands, la prostitution, et elle se mélangeait à tout ça. Et...
Fréhel aimait beaucoup le milieu.
Bah oui.
Les voyous.
De la chanson réaliste, ça parle de ça aussi, en fait.
Ouais.
C'était son élément.
Elle en avait lancé des ritournelles, là. Mais à quoi bon? Elle savait qu'elle était attendue dans un autre monde, que c'était sa fin. Elle avait voué sa vie à la chanson. Et celle qui débuta dans la rue, en chantant à 5 ans Fleur de Seine, se rappelait soudainement les beaux jours de la Scala ou de l'Eldo, toutes les gigolettes qu'elle chanta avec les bas-fonds de tous les coins du globe. On l'aperçut à la cour de Roumanie et dans les bouches du Bosphore. À sa disparition, on fit une quête pour sa tombe.
Vous savez qu'elle est enterrée au cimetière de Pantin, parce que je trouve ça absolument triste. Parce que moi, je voudrais qu'elle soit enterrée. La Goulue, par exemple, était une grande... vedette du musical, comme le Moulin Rouge, et voilà, elle a été rapatriée au cimetière de Montmartre. Et moi, je voudrais que Fréhel soit rapatriée au cimetière de Montmartre, qu'on ne laisse pas à Pantin. Je trouve ça un peu triste, je l'imagine très seule là-bas dans ce cimetière. Il y a des plaques ici, dans le 18e, 9e, où il y avait beaucoup de chansonniers, des metteurs en scène, des romanciers, etc. Où il y a des plaques sur les immeubles ici, il y a vécu Trucmuche. Et Fréhel, il n'y a pas. Alors ça, je me dis peut-être déjà une plaque. Et puis ramener Fréhel à Montmartre, ça c'était peut-être un projet.
Oh et les copains, venez vous rincer la gueule, ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Ça fait rudement longtemps qu'on était tous les deux, moi j'avais 18 ans et lui dans les 22, il m'a tout fait quitter. Mon père et puis ma mère, c'était pour me faire goûter à toutes les misères. Oh, et les copains,
Fréhel, telle qu'elle est.
Ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin.
Avec Myriam Boyer, comédienne, Johan G. Louis, dessinateur, auteur d'une biographie dessinée de Fréhel, Emmanuel Robert Espalieu, écrivain, dramaturge, Cécile Mestre-Chabrol, scénariste, Audrey Couteville, spécialiste de la chanson, maître de conférence à l'université de Valenciennes.
Oui, les copains, venez vous rincer la gueule, ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Mais je ne sais pas ce qu'il y a, c'est pourtant pas normal, rien que de parler de tout ça, j'ai le cœur qui me fait mal, ça c'est vraiment marrant.
Coordination Anaïs Quien, attachée de production Sylvia Favre, documentation d'actualité Béatrice Jam. Archivina, Mylène Touchet, prise de son Raymond Albouy, mixage Olivier Dupré. Fréhel, telle qu'elle est, Marie Placet, Olivier Chaumel.
Allez les copains, ce soir je suis toute seule, j'en verrai plus sa gueule, il est mort ce matin.